J'espère que voilà, ça va, il n'y a plus d'annonce. Et j'aimerais commencer, alors ça va être une, comment dire, quelque chose, je vais dépeindre quelque chose qui va passer de l'Exode jusqu'au Nouveau Testament. Vous voyez, un thème qui va, c'est comme une peinture, c'est comme, voilà, quelque chose de, qui va, une fresque, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et le premier passage sera dans l'Exode 26. Vous savez, Moïse monte sur la montagne, et il y a le feu, il y a la fumée, il y a les tremblements de terre, même les bêtes fuient. Les Israélites, les Hébreux qui sont dans la plaine, ils ont peur, ils ne peuvent pas s'approcher, mais Moïse, lui, monte. Et pendant 40 jours, 40 nuits, il rencontre Dieu, il voit la gloire de Dieu, il vit des choses extraordinaires. Et dans le chapitre 26, au verset 26-31, voici ce qui est écrit. Il lui donne une vision de ce que va aller être le tabernacle, l'endroit où il va se tenir, où sa présence va être effective. Et il dit quelque chose de très important, « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. » Verset suivant, voilà, le 32 et le 33 après. « Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Et enfin, tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. » Et Dieu dit, c'est là que je me tiendrai, dans le lieu très saint. Et il y avait ce voile qui empêchait toute personne d'entrer dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et dans la traduction, le mot voile peut être aussi traduit par une toile et un écran. Ça faisait écran entre l'homme et la gloire de Dieu. Moïse monte sur le mont Horeb, il a toutes ses visions. Dieu lui confie les tables, écoutez bien, les tables de la loi, qu'il l'a gravé avec ses mains même, Dieu a gravé là les tables de la loi, ce que nous appelons les 10 commandements. Mais lorsque Dieu dit à Moïse, redescends et regarde, eh bien le peuple, vous le savez, en attendant Moïse, ils ont réussi à convaincre Aaron de construire une idole avec l'or de chacun. Chacun va amener son or pour construire une idole. Et Moïse, que va-t-il faire? Il va briser les tables de la loi. Il se dit, ce peuple n'est pas digne d'avoir les tables de la loi. Il les prend, il les brise. D'accord? Alors, la deuxième lecture, ce sera dans Exode 33. Exode 33. Attendez que je retrouve. Verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je te le donnerai à la postérité. » Le verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alors on peut continuer à la suite. Le 8 jusqu'à 11, on va lire. Hein. Lorsque Moïse se rendrait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa propre tente hein, et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset suivant. C'est 9, 30. C'est jusqu'à 11 qu'on va le lire. Hein. D'accord. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous voyons ici que, comme sur le mont Horeb, la colonne de nuée descendait sur cette petite tente qui avait été dressée en dehors du camp. Ça n'a rien à voir avec la vision qu'avait eue Moïse sur le mont Horeb. Ce n'était pas le tabernacle que nous voyons là, mais c'était une toute petite tente pour deux personnes, ou trois. Il y avait Moïse, son serviteur Josué, et la présence de Dieu. Et cela en dehors de tout sacerdoce qui avait déjà été prévu, en dehors d'Aaron qui avait failli, en dehors de tous les sacrificateurs. Il n'y avait que Moïse, Josué et la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et seul Moïse et son serviteur Josué se tenaient dans la tente et cette nuée-là mettait une séparation entre le peuple et la gloire de Dieu, et la présence de Dieu dans la tente. Ils ne pouvaient pas rentrer, parce que la nuée était puissante, forte. Ce sont des choses quand même très impressionnantes, des choses glorieuses. Et les gens se tenaient là, ils se prosternaient devant leur propre tente. Ils n'osaient pas aller là où aller. Moïse et son serviteur. Troisième lecture, chapitre 34, versets 27 à 35. Ça va être difficile. 37, attendez. Exode 34, pardon, c'est ça. Je cherche. L'Éternel dit à Moïse : écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi. Et le verset premier nous dit : attendez, on va juste 34. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables. Merci. Et puis, un peu plus loin, il dit, verset 28, cette fois-ci, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Ce n'est plus sur le mont Horeb, mais c'est sur le mont Sinaï que maintenant Dieu appelle Moïse. Il monte, il va rester encore 40 jours et 40 nuits pour une deuxième fois. Et là, Dieu va écrire à nouveau sur les tables, les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et puis on peut regarder 24... on va lire la suivante, les paroles suivantes. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient. La peur était dans leur cœur, ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna toutes les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Et verset 30, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. Et encore là, nous voyons que la magnifique gloire de Dieu qui rayonnait de tous les pores du visage de Moïse, eh bien, il était obligé de mettre un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortit, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Mais voyez, Moïse, à chaque fois qu'il retournait dans cette tente d'assignation, et qu'il rencontrait le Seigneur, il n'avait plus besoin de voile dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il ôtait son voile. Voilà un petit peu décrit en quelques mots certains aspects de ces événements qui ont été précurseurs à la construction du tabernacle, puis après du temple, à l'établissement du peuple hébreu en Israël, qui encore aujourd'hui fait tant de bruit dans les nations. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'à un moment donné, la gloire de Dieu, qui a été pourtant quelque chose d'extraordinaire, de puissant, eh bien, les hommes n'étaient pas capables de la supporter. Il y avait comme une frayeur. Et quand la gloire de Dieu descendait sur le mont Horeb, les Israélites avaient peur. Et quand Moïse sortait de la tente d'assignation avec le visage résonnant, ils avaient peur. Et il y avait un voile sur son visage. Le voile fait donc un écran entre la gloire de Dieu et les hommes, entre la présence de Dieu et les hommes, entre la sainteté de Dieu et les hommes. Et on peut lire encore un autre passage, et cette fois-ci dans Ésaïe, un passage qui est formidable, Ésaïe 25, verset 7, 25-7, si je ne suis pas trompé. Ésaïe 25-7, c'est une prophétie, Ésaïe 25, qui parle de la montagne de Sion. Et vous savez, qu'est-ce que c'est que la montagne de Sion dans l'Ancien Testament? C'est la ville de Jérusalem, la ville sainte, qu'on appelle la ville sainte. Et Ésaïe dit, inspiré par le Saint-Esprit, et sur cette montagne, à Sion, le serviteur de l'Éternel va anéantir le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et en fait, ce voile qui est sur le visage de Moïse, et ce voile qui est dans le tabernacle et plus tard dans le temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint, eh bien ce voile, cette couverture, elle existait avant. Et elle recouvre toutes les nations, tous les peuples. Elle me recouvrait moi-même, elle vous recouvrait aussi. Nous sommes tous sur une couverture étouffante, une couverture qui nous prive de voir la gloire de Dieu. Une couverture qui est là et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alors, qui est ce serviteur? Quel est l'événement si important qui va détruire, qui va anéantir ce voile? Laissez-moi vous dire que ce voile est tombé sur l'humanité le jour où Adam et Ève ont péché. Ce voile, on peut lui donner toutes sortes de noms. C'est le voile du péché, c'est le voile de la malédiction, c'est le voile de l'obscurantisme. C'est le voile qui empêche l'homme et la femme de s'approcher de Dieu. C'est un voile puissant. Et voilà quelque chose d'important, il est sur toutes les nations et toutes les nations sont empêchées de rencontrer Dieu, de voir l'évidence de la présence de Dieu. Les gens disent mais Dieu n'existe pas parce qu'il y a le voile sur leur conscience, le voile sur leur intelligence, le voile sur leurs yeux spirituels. Ah, ils nous privent de la gloire de Dieu, mais sur une montagne élevée. La prophétie d'Ésaïe va s'accomplir le jour où Christ portera les péchés du monde sur la croix. Ça, c'est l'événement unique. Ça, c'est l'événement dont parle notre cher Ésaïe. Il anéantit le voile qui privait l'homme de la gloire de Dieu. D'un seul coup, nous dit la parole de Dieu, le voile va être déchiré, enlevé, pour révéler la gloire de Dieu. Je voudrais juste, c'est peut-être pas la peine, mais je vais vous le lire parce que je l'ai écrit. Hein. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut vers le bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des morts, des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. Marc 6, 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Luc 23. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans tous ces trois évangiles, il est décrit ce qu'espérait Esaïe. C'est que le voile allait se déchirer. Le voile allait se déchirer. Vous savez, le souverain sacrificateur, le descendant direct d'Aaron, avait le privilège, une fois par an, de rentrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint, de franchir le voile. Peut-être il le faisait par le côté, je ne sais pas, droit ou gauche, je ne sais pas, mais il rentrait avec ses petites clochettes, gling, 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 parce que personne ne le voyait. Et on avait peur que s'il lui arrive quelque chose, n'est-ce pas, eh bien, on ne puisse pas aller le chercher. Donc tant que ça faisait gling, gling, c'est qu'il était encore en vie. On avait la crainte aussi de la présence de Dieu dans ce lieu. Et donc, pour franchir ce voile, il fallait qu'il y ait avant un sacrifice. Il fallait qu'avant, il y ait quelqu'un qui soit sacrifié. Mais laissez-moi vous dire que pour que le voile se déchire en deux, il a fallu un sacrifice d'autant plus supérieur que les vaches, les taureaux, les agneaux et autres, ou les boucs. Il a fallu le sang même de Jésus, le sacrifice même de Jésus, qui va rentrer lui-même, nous dit la parole de Dieu, dans le lieu très saint, qui est la présence de Dieu dans le ciel, avec son propre sang. Et là, le voile, il ne se pousse pas pour retomber, il se déchire. Amen. Il se déchire. Il est, la Bible dit, anéanti. Anéanti. Donc, pour franchir ce... pour déchirer ce voile, il a fallu le sang de mon Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une épître, peut-être que ce n'est pas votre préférée. C'est la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez un peu de mal à lire. Peut-être qu'il y a dans cette épître des passages un peu difficiles. Mais j'aimerais qu'on regarde ce qu'il est écrit concernant ce dont je viens de vous parler. Concernant cette fresque que j'ai commencé à dresser devant vous. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, voici ce qu'il est écrit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Là, vraiment, Christ doit être quelque chose qui est écrit en nous. Ce n'est plus sur les tables de la loi que cette nouvelle alliance se base. Car effectivement, c'est une nouvelle alliance, un nouveau sang, le sang de Jésus, un nouveau sacrifice, le sacrifice parfait, et une nouvelle loi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur des pierres qu'elle est gravée, c'est dans nos cœurs. Et versets 7 à 9, chapitre 3, versets 7 à 9. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, je vous en ai parlé, c'était glorieux quand même. C'est pas souvent qu'il y a des montagnes qui brûlent comme cela. Hein? Ça nous fait penser, c'est comme un gros volcan, sauf qu'il n'y a rien qui descend, qui vient de la terre. Tout vient d'en haut, tout vient du ciel. Une puissance glorieuse. A été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Et cette gloire, elle était passagère. Avec le temps, la peau de Moïse est redevenue comme les autres. Et quand Moïse parlait au peuple, tous regardaient son visage, il en avait assez. Il a mis ce voile pour empêcher qu'il voie la gloire de Dieu et pour qu'il s'intéresse un peu aux paroles qu'il lui disait. Combien le ministère de l'Esprit, nous dit l'Écriture, ne sera-t-il pas plus glorieux? Et aujourd'hui, je proclame ici que le ministère de l'Écriture, c'est la prédication de la croix. C'est la prédication de l'Évangile. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Attendons-nous à vivre des choses bien plus supérieures que ce que le peuple a vécu dans le désert, que ce que Moïse a vécu dans le désert. Mais vous savez, en fait, je ne veux pas prêcher sur le voile. Je veux prêcher sur ce qu'il y a derrière le voile. Juste tout près du voile, mais juste de l'autre côté du voile dans le temple, il y avait la gloire de Dieu. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est ça. C'est pas tant le voile. C'est le fait qu'à un moment donné, ce voile se soit déchiré et qu'il nous révèle la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Mes amis, quel privilège! Nous vivons un privilège tellement supérieur à ce qu'ont vécu ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Si de temps en temps ils ont vu la gloire de Dieu, nous y avons accès à la gloire de Dieu. Et Dieu veut la partager avec nous, cette gloire. Toute la gloire revient à Dieu, mais il nous fait vivre dans sa gloire. Il nous fait aller de gloire en gloire, comme nous allons le voir dans ce passage. Et cette gloire, c'est bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Bien plus grand que Moïse montant le mont Horeb ou entrant dans la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Bien plus grande, bien plus grande. Parce que là, il y a aussi le Fils qui est glorifié. Là aussi, il y a la présence de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est là. Il y a tout dans la présence de Dieu. Ce matin, nous avons accès à ça. Nous avons accès à ça. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Alors il y a quelques personnes qui pourraient me dire, mais où voyons-nous la gloire de Dieu ce matin? Où la voyons-nous? Effectivement, nous constatons qu'aujourd'hui quelque chose cloche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement. Nous n'avons que des brides de la puissance de Dieu. Et ce matin, nous n'avons pas vos livres de brides. Nous ne sommes pas des chiens sous la table qui se satisfaisent de miettes. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus a dit à Marthe, devant le tombeau de Lazare, « Si tu crois, tu verras un peu de gloire. Tu verras la gloire de Dieu. » Et ce matin, Jésus nous dit encore, « Par la foi, tu peux rentrer dans ma gloire. Par la foi, tu peux accéder à cette puissance, à cette gloire. » Continuons la lecture. 2 Corinthiens 3, 12 à 18, s'il te plaît. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ça, c'était une gloire passagère. Et c'était pour ça qu'il avait mis un voile. Et puis la page suivante, le verset suivant, s'il te plaît. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a des endroits où le voile est retombé, où le voile a été recousu. Il y a des consciences qui sont à nouveau voilées. Malgré ce qu'a fait Christ sur la croix, malgré la prédication de l'Évangile, il y a encore des zones, des endroits, des cœurs qui n'ont pas eu ce déchirement, cet anéantissement. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous ne pouvez pas expliquer l'Évangile à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui descend sur lui et qui lui ouvre les yeux. Vous ne pouvez pas expliquer l'Évangile sans parler du sang de Jésus, parce que le voile de la conscience, le voile qui prive les gens de constater que Dieu est partout, qu'il est dans sa création, dans l'étendue infinie de la création, comme dans les détails, dans la nature, comme dans notre propre nature, dans notre corps. Quelle merveille! Et pourtant, je n'ai pas une haute opinion de moi. Je me regarde dans la glace uniquement le matin pour me coiffer. Et vous voyez, des fois, le résultat, il n'est pas... Nous jouissons d'une grande liberté ce matin. Mais il y a le voile qui se repose. Il y a le voile qui se repose. Et quelquefois, il recourt l'Évangile. Et pour certains, il recourt tellement complètement l'Évangile qu'il n'y croit pas ou qu'il n'y croit plus. Car mes amis, faisons attention qu'à un moment donné dans notre vie, le voile ne se redépose pas à nouveau. Le voile se reconstitue si nous ne faisons pas attention. Et il est là pour nous priver de la gloire de Dieu. Il retombe sur les mouvements, les églises. Les catholiques ont recousu le voile. C'est un des livres de Thomas Bress que je vous conseille. Il y a, dans les années 1800, un abbé qui était zélé pour le Seigneur. Il habitait au Canada, il était un des plus connus. Et un jour, eh bien, il a emmené avec lui aux États-Unis 70 000 personnes pour implanter une nouvelle colonie catholique. Et il a mis tout son zèle. Et un jour, il a été convoqué par son évêque. Et son évêque lui a dit, écoute, aujourd'hui, dans la grande cathédrale, il y avait 10 000 personnes, c'est toi qui annonceras l'homélie et tu parleras de Marie. Et alors ce frère catholique, zélé, a commencé à parler de Marie en disant, mais vous voyez, c'était beau, c'est ce que nous disent les gens, mais enfin, il ne peut pas résister à sa mère. Voyons, c'est à sa mère qu'il faut aller. Et c'est elle. Imaginez que vous ayez un grand roi avec qui vous avez fait du tort, mais vous ne pouvez pas d'un seul coup aller vers lui. Si ça se trouve, il va vous faire assassiner. Vous êtes obligé de passer par ses serviteurs en lui disant « Demande pardon pour moi au roi. » Eh bien aujourd'hui, passez par Marie. Parce que dans l'Évangile, il n'y a jamais eu un passage où Jésus ne répond pas favorablement à sa mère. Et il annonce ça de tout son cœur. Et quand il finit son homélie, les gens pleurent, ils sont heureux. Et l'évêque le remercie chaleureusement en disant « Ça va marquer les consciences pour des années et des années. Merci, mon frère. » Simplement, cet homme, quand il était enfant, avait eu accès à la Bible par sa maman. Et il apprenait des passages entiers de la Bible par cœur. Et plus tard, même quand il sera abbé, eh bien, il rentrait dans la présence de Dieu en lisant la parole de Dieu. Et quand il va rentrer chez lui ce jour-là, tout content, il va ouvrir l'Évangile. Et il va entendre ce passage où la maman de Marie, la maman de Jésus, lui dit « Je suis là avec tes frères, laisse-moi entrer. » Mais qu'il ne répond pas, il dit « Voilà, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. » Et il se dit « Mais alors j'ai menti. » Il ne dort pas de la nuit. Le lendemain matin, il était invité au petit déjeuner avec l'évêque. Et quand il rentre, l'évêque voit son visage complètement déformé. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dormi de la nuit? Il dit, non. Tu as un problème? Oui, je voudrais vous en parler. Et il lui parle de cela. Et là, bien sûr, c'est le clash. C'est le clash. Il sera exclu de la religion catholique. Et plus tard, il découvrira petit à petit dans la parole de Dieu. Il était tellement violent contre les protestants que personne ne voulait lui parler. Tellement, et à la fin, rejeté par les catholiques, tout seul, suivi par son église, il redécouvrira les vérités de la parole. Et il dira, on avait recousu le voile. On a recousu le voile. On n'avait plus accès directement à Dieu. Il fallait passer par Marie, on a recousu le voile. Aujourd'hui, il y a d'autres mouvements qui ont recousu le voile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Elle contient la parole de Dieu. On commence à coudre. Puis on dit, oh, vous savez, il ne faut pas prendre littéralement ce qui est dans la Bible. Hein. On recommence. Ou alors on dit, les miracles, mais c'était pour le temps de Jésus. Et encore un coup, on recoue. Et on se prive de la gloire de Dieu. Alors allez-y dans ces églises, vous risquez rien. vous pouvez dormir tranquille. Le voile est recousu, il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit ne va plus nous dire « qu'est-ce que tu as fait hier ?» Le Saint-Esprit ne va plus nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs et va nous amener à nous mettre à genoux, à demander pardon pour ce qu'on a fait. Le voile est recousu. Moi, ce que j'ai vu en préparant, ce n'est pas un voile épais comme les catholiques ou contre ces autres églises. C'est un voile tout léger, tout fin. Il tombe tout doucement sur nous. C'est le voile du non-pardon. Il est tout léger. On commence à pardonner. C'est le voile de ce qu'on a regardé sur Internet. C'est tout léger au départ. Et il tombe. Et il s'accumule. C'est le voile de la médisance. On a dit un petit peu, pas beaucoup, mais tu as vu quand même un tel... J'avais raison quand même. Hein? Mais qu'importe si on a raison. On est là pour couvrir la faute de mes frères et sœurs, pour prier pour eux. Mais voilà, il y a le voile de la médisance. Et je vois d'autres voiles qui se posent. Vous les connaissez. C'est des voiles très fins au départ. Il ne suffit pas à cacher la gloire de Dieu. On est toujours dans la présence de Dieu. On va à l'église. C'est formidable. Oh, ce matin, il y avait des chants. C'était formidable. Et tu avais un voile sur toi. Tu ne sais pas que tu es passé à côté de la gloire de Dieu. Tu ne sais plus que là, ce matin, il y avait la guérison pour ton âme. Il avait la bénédiction pour ton âme. Puis il y a le voile de l'indifférence. Ouais, voile de l'habitude. Le voile de la routine. Ce matin, c'était bien, hein, les chants. Hein. Franchement, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Et on est passé à côté de quelque chose de glorieux. Vous croyez que vraiment, le Seigneur dit la vérité? Vous croyez que vraiment, il veut encore agir aujourd'hui? Alors nous sommes privés de quelque chose parce que nous laissons un petit voile nous empêcher d'accéder à la gloire de Dieu? Non. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Moi, je veux dire, Seigneur, tu me connais. Tu me vois. Tu sais ce que je suis. S'il y a un voile sur moi, s'il y a quelque chose qui m'entrave, on pourrait dire que c'est presque un filet qui spirituel qui m'empêche de saisir la bénédiction. Un filet, vous savez, avant on attrapait les gens en leur mettant un filet dessus. Ouais, ils n'arrivaient plus. Plus tu bouges et plus tu t'en mêles. Et après, vous pouvez mettre la bénédiction là, là, leur arme là, ils ne peuvent pas la toucher. Et ce qui repose quelquefois sur nos vies, c'est ça. C'est un voile au départ, un petit filet. Un petit filet. C'est pas plus grand qu'une toile d'araignée. C'est rien, une toile d'araignée avec un balai, tchac. Vous savez qu'il n'y a rien de plus costaud qu'une toile d'araignée. Ouais. Les gens, ils étudient ça avec étonnement. Parce que c'est tellement fin que c'est plus costaud qu'un fil d'acier, il paraît. De la même taille. Ne laissons pas cela. Ne laissons pas les araignées s'installer dans nos pensées. Ne laissons pas ces choses-là. C'est un tout petit. C'est un tout petit. Alors, quelle est la solution? Eh bien, nous l'avons lu, la solution. Nous l'avons lu. Moi, je ne veux pas qu'un voile soit déposé sur mon cœur. Je ne veux pas que l'évangile soit voilé. Je ne veux pas que mon intelligence soit voilée. Je veux que mon intelligence soit renouvelée. Mais comment en faire partir ce voile? La Bible nous dit qu'il ne peut partir qu'en Jésus, que dans la présence de Christ. C'est lui. C'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen, c'est en Christ. Ce matin, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous voyons vraiment les miracles que voyaient les anciens? Vous savez que l'église de Martigues a été bâtie sur les miracles, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai. Il n'y avait rien, humainement parlant. C'était des réunions avec des gens qui avaient, voilà, 10-15 personnes, des personnes âgées, qui parlaient même pas français pour certaines, ou très mal le français. Certains venaient de Sicile, d'autres, voilà. C'était comme ça. Il n'y avait pas de musique. Il y avait peut-être un petit harmonium, bon tant pis, vous savez, pam, 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 pam. Mais il y avait la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que l'Église est née. Et l'Église ne grandira, Martigues, que lorsque nous aurons retrouvé la présence de Dieu, lorsque tous les voiles seront déchirés, lorsque, à genoux devant le Seigneur, nous pourrons reconnaître que nous avons besoin de lui. Et lui nous fera partager sa gloire. Alors, c'est marqué hein, dans cet épître de j'ai perdu ma page. 2. Merci Jacques. Il a écouté. 2 Corinthiens. J'aimerais avoir lire ce verset qui nous dit que nous allons aller de gloire en gloire. Ouais. Mais bon, je ne l'ai pas noté, c'est pas grave. Seigneur Jésus. Ouais, c'est le verset 18. Voilà. Nous tous déchirons le voile sur le visage, là. Les amis, c'est le masque qui cache. On n'en a plus besoin. Vous savez, j'ai l'impression que dans nos églises, quand on a une grande bénédiction, on ne le dit pas trop parce que l'autre, il n'a pas eu la bénédiction, alors non, rendons gloire à Dieu. Calculons pas. Le Seigneur, il a des bénédictions pour tous. Amen. Peut-être la personne qui va parler, ce sera la première à avoir eu la bénédiction. Et après, il y en aura tellement qu'on l'aura oublié. Pas oublié, mais elle sera passée au milieu des autres. Non. Nous avons le visage découvert. On va contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est... La Bible nous dit, on n'est pas encore au ciel. Ce n'est pas la pleine gloire que l'on va voir, parce qu'on ne peut pas, avec ce corps que nous avons, supporter la pleine vision de la gloire de Dieu. Mais on va voir ça à travers un miroir, la gloire du Seigneur. Et on va être transformé de la même image de Christ en nous. On va aller de gloire en gloire, comme avec le Seigneur, comme si on était le Seigneur, grâce à son esprit. Magnifique ça. Qui c'est qui veut aller de défaite en défaite? Non? De déception en déception? Qui veut aller de gloire en gloire? Qui veut aller de gloire en gloire? Eh oui, nous voulons. Alors, on va simplement prier ensemble. Amen. On va prier ensemble, on va faire cette prière de tout notre cœur ensemble. Et j'espère que... Et peut-être que je dis une phrase et ceux qui le ressentent dans le cœur, ils peuvent répéter après moi. Vous savez, c'est une confession de chacun de nous. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous vous sentez, faites-le. Seigneur, enlève de ma vie ce qui altère la splendeur de l'Évangile. Seigneur, enlève de ma vie ce qui altère la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ne permets pas qu'il y ait un voile sur mon cœur, Seigneur. Que ce voile disparaisse en toi, Jésus. Car tu peux déchirer ce voile. Depuis le haut jusqu'en bas, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est toi qui peux le faire. J'accède pas au haut. C'est toi qui peux le faire, Seigneur. Déchire ce voile. Amen. Peut-être qu'on peut répéter cette simple « Seigneur, déchire ce voile. » Peut-être plus fort encore. « Seigneur, déchire ce voile. » Seigneur, déchire ce voile. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous avons prié que nous croyions dans la guérison divine. Alléluia. Nous avons des personnes excessivement malades, trop malades pour nous. Nous voulons que Dieu se glorifie dans leur vie ce matin. Voulons qu'ils soient délivrés, sauvés. Ah, qu'au nom de Jésus, ils soient renouvelés maintenant. Qu'au nom de Jésus, les cancers soient chassés. Qu'au nom de Jésus, le sourd entende. Qu'au nom de Jésus, alléluia, celui qui ne peut pas parler le muet parle. Qu'au nom de Jésus, il se passe des choses glorieuses. Et pour cela, Seigneur, enlève le voile de notre vie. Seigneur, enlève le voile qui assure mon cœur. Enlève le voile qui assure ma conscience. Enlève le voile qui assure l'Évangile. Afin que nous puissions le plein évangile, vivre le plein évangile, Seigneur. Rien ne doit être, Seigneur, ôté de la parole de Dieu. Tout est vérité, tout est vrai. Mais nous le croyons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, c'était ce que j'avais reçu sur le cœur.